La revue de presse, Claude Askolovitch, on parle de championne dans la presse ce matin.
Et de champion aussi, champion dans la dépêche. Je vois Tony Modjo, colosse autrefois rugbyman, qui a traversé le golfe de Saint-Tropez à la nage, à la seule force des bras. Tony est tétraplégique depuis 2010 et n'en persévère pas moins à sculpter son corps et bronzer son âme. Champion dans le Parisien, où un grand jeune homme mince tutoie l'invraisemblable. Jonathan Jeanne, jeune géant français, qui aurait dû devenir star du basket américain, mais en fut empêché parce qu'atteint d'un syndrome qui peut provoquer une dilatation de son aorte. Il joue quand même Jonathan au Danemark au risque de sa vie. Champion et championne dans l'équipe qui, comme chaque décembre, couronne les sportifs de l'année et les lire web et papier me confirme l'intensité de ces êtres d'exception. Si Raphaël Nadal, champion de l'année, semble sans mystère métaphysique, il est aussi une mécanique humaine de haute précision qui a simplifié son geste au service en pliant moins les jambes. Cela soulage ses vieilles articulations, ce n'est pas rien. Mais son dauphin, le pilote de F1 Lewis Hamilton, est complexe, jet-setter, fan de mode. Il a dessiné un vêtement en hommage à Karl Lagerfeld, mais l'extinction des espèce le hante et son âme le tourmente. Ainsi l'illustre le crucifix tatoué sur sa peau sombre de champion noir qui s'est aussi tatoué un poème « Still Rise, toujours je me relève » d'une figure du mouvement des droits civiques américains. Il a Hamilton, la peau sombre en commun avec Simone Biles, gymnaste acrobate au double salto arrière avec triple vrille et autres défis à la gravité. Biles, championne des championnes, dépasse tous ses contemporains par la conscience de sa démesure. Je me demande comment je fais, j'ai l'impression que ce n'est pas moi et j'aimerais sortir de mon corps pour être le témoin de ce qui se passe. Elle a survécu, Biles, à une famille chaotique, aux préjugés de race dans la gym, à des agressions sexuelles. Elle a solidifié son corps et travaillé la poutre. Elle fait l'admiration de Michelle Obama, qui voit en elle celle qui brise les barrières. Sa dauphine, Megan Rapinoe, meilleure footballeuse du monde, est racontée dans l'équipe non pas comme la militante, ça on le sait, mais comme une trentenaire qui a renoncé au bon vin et à la bonne vie pour prendre au sérieux l'alimentation, la musculation, pour mener trentenaire l'Amérique au titre, le prix que l'on paye. À quelques pages de ces championnes, il est drôle de lire dans l'équipe la suite d'une série sur les WAGs, Wives and Girlfriends, les compagnes des footballeurs anglais. Là-bas, c'est un mythe. Aujourd'hui, c'est Colleen Rooney qui avait 16 ans quand elle a rencontré Wayne, qui en avait 17 déjà footballeur, et qui l'invita à un Austin Powers. Il y eut un mariage, une vie des aléas et la révélation d'une guerrière. Colleen a rusé pour confondre Rebecca Vardy, autre WAG, épouse d'une vedette de Leicester, qui faisait fuiter des infos sur elle dans le Sun, journal poubelle. Il est bien des guerres aux femmes bien nées.
Et on parle encore de Liverpool dans Mediapart.
Liverpool dont la légende est soudain un peu moins belle. Savez-vous, mes amis, d'où vient le nom de cette rue au Penny Lane que les Beatles chantaient? Eh bien, d'un monsieur Penny, marchand d'esclaves, mort en 1799, qui défendit la traite négrière devant le Parlement britannique et fut donc un héros de ce commerce triangulaire qui fit la prospérité de Liverpool, premier port négrier européen au XVIIIe siècle. Mediapart raconte comment des militants ont amené une ville à affronter sa vérité que chacun visite dans un musée international de l'esclavage, le seul en Europe, qui est aussi le soulagement des Noirs qui vivent aujourd'hui à Liverpool. À Glasgow et à Londres sont en projet des musées similaires. Tous les Londoniens doivent pouvoir retrouver leur histoire dans les musées de la ville, a dit le maire de Londres, Sadiq Khan. Ainsi est l'Angleterre qui suit l'exemple américain où l'on parle d'une histoire noire et où les études postcoloniales qui font le lien entre nos affres actuels et nos fantômes ne sont pas interdits. Y viendra-t-on en France? L'Express l'envisage, mais le redoute. Le patron du Centre National des Arts et Métiers, Olivier Faron, veut mettre la France au post-colonial studies. La France a été un des principaux pays coloniaux et c'est comme si tout s'était arrêté après, comme si nous n'étions pas capables de porter ce sujet extrêmement important, dit-il. Il compte, Faron, s'allier au CNRS pour avancer. Oui, mais l'Express redoute que ce soit une aubaine pour les obsédés de la race, je cite, des militants qui ne liraient plus notre histoire qu'à cette aune de la race et taxeraient notre pays de racisme institutionnel. Et l'Express, sur son site, accueille un texte au vitriol contre les bonimenteurs du postcolonial. Il est emmené par Laurent Bouvet, politologue, fondateur du Printemps républicain, et par l'historien Pierre Taguieff. Cela semble querelle picrocolline, mais pas il faut aller lire ces textes. C'est une querelle fondamentale. Qui sommes-nous? Que nous racontons-nous?
Et le courage d'une femme, pour finir, Claude.
Qui vient de Chine et qui est d'un courage inouï, me dit Le Monde. Elle s'appelle Lao Dongyan, professeure de droit à l'université de Tsinghua. Elle a posté sur les réseaux sociaux chinois un long article pour dénoncer la reconnaissance faciale que le régime veut imposer jusque dans le métro de Pékin. Le texte est implacable, il démonte le projet juridiquement et moralement et conteste la confiance que le bon citoyen chinois devrait placer dans les autorités. Les personnes qui contrôlent nos données ne sont pas à Dieu, elles ont leurs propres désirs et leurs propres faiblesses. De plus, on ne sait pas comment elles vont utiliser nos données personnelles. Sans vie privée, il n'y a pas de liberté. Et à ceux qui lui disent que sa démarche est inutile, la professeure répond « Même si cela ne sert à rien, cela vaut mieux que d'accepter docilement d'avoir des chaînes aux pieds. Au moins, on a lutté. » Le très officiel journal China Daily admet que la reconnaissance faciale provoque en Chine un débat national. C'est venu de très loin la lumière de cette journée. En Bretagne, Liège en Ouest-France, un couple a décidé de s'adapter à une nouvelle loi qui va bannir dès le 1er janvier les cotons-tiges. Alors ces commerçants de Liffré ont réinventé le cure-oreille qui accompagnait l'homme depuis l'Antiquité, qui a disparu avec le plastique des années 60 et revient en bois breton, façonné dans une tournerie d'art à Brocéliande. Nous avons donc, nous, la magie, le sourire. Vous lirez enfin, j'en termine, dans Le Figaro, Le Monde et surtout dans Libération, de magnifiques portraits d'un homme magnifique, Claude Régis, qui révéla Depardieu et qui portait le théâtre à l'incandescence du silence, le silence qui scandait ses pièces et aussi à la mort, qui sculpte le vivant et qui a fini par le saisir à 96 ans. Nous sommes, je vous en prie, allez les lire, nous sommes aussi cette grâce.
Merci Claude Askolovitch, c'était la revue de presse.